Nous allons ouvrir le Saint-Livre. Nous allons ouvrir ce livre. Et je pense vraiment que Dieu sait où nous en sommes, chacun. Vous croyez que Dieu sait où vous en êtes? Ça vous rassure ou ça vous inquiète? Est-ce que ça vous rassure? Ouais. Dieu sait. Vraiment, Dieu sait. Nous, des fois, on ne sait pas. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit aux chrétiens de l'Odyssée? Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas que ça va pas. Mais Dieu, il sait. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu sait comment nous aider. Dans le psaume 127, j'ai pris pour introduire le psaume, le verset 2, parce que quand je me suis converti, le pasteur où j'étais utilisait souvent ce verset. « En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. » Et il utilisait cette partie du verset. « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Et souvent, très souvent, quand il parlait, il disait « Voilà, mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » De l'air de dire « Voilà, on est des bien-aimés, eh bien Dieu nous bénit pendant notre sommeil, il n'y a rien à faire. » Petit à petit, ça fait son chemin, ça. Et ça peut conduire beaucoup de gens à la pauvreté spirituelle. Les bien-aimés dans la Bible, les bien-aimés. Il y a quelques jours, j'étais en vacances et un soir, je voulais méditer les 70 semaines de Daniel avec la semaine restante dans le livre de l'Apocalypse. Je voulais méditer donc le livre de Daniel. Et venez avec moi dans le livre de Daniel. Et je lisais, je cherchais des textes que je connais, je voulais les chercher pour les mettre ensemble, pour m'exhorter moi-même. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit m'a arrêté sur une expression. Vous savez combien Dieu a pu parler à Daniel. Comment Dieu a pu lui parler? Daniel chapitre 9, on va lire verset 20, vous allez voir l'expression qui revient à trois reprises, où Dieu à trois reprises va lui dire quelque chose de manière particulière. Il veut lui parler, il veut lui dire ce qu'il pense de lui également. Daniel chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Un petit peu plus loin, dans le chapitre 10, au verset, on pourrait lire à partir du verset 9. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me fortifia de nouveau, me toucha de nouveau, et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. » Et moi qui voulais étudier sur les 70 semaines, j'ai été touché, mais vraiment touché, je vous le dis, c'est pas émotionnel, mais j'en ai vraiment pleuré. J'ai compris quelque chose, que Dieu parle, il nous parle, nous qui sommes ses enfants, mais il peut nous parler de plusieurs manières pour nous interpeller. Dieu peut nous parler avec bonté, Dieu peut nous parler avec sévérité. Dieu a quelque chose à dire. Vous avez vu dans les lettres aux églises, ça termine toutes par cette parole, ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous devrions peut-être nous poser la question ce matin, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ? À moi, à toi. Ou est-ce que ça ne vous préoccupe même plus ? Ou est-ce que vous voulez juste une parole générale, que Dieu vous rappelle des promesses pour vous rassurer ? Il y a des chrétiens, ils se contentent de l'à peu près. Je crois vraiment qu'un chrétien, digne de ce nom, doit pouvoir quand même dire en ce moment, le Saint-Esprit me travaille sur ce sujet. Oui ou non ? Normalement, sans vouloir pousser à l'excellence. Mais quand même, il me semble que tous les chrétiens nés de nouveau devraient pouvoir dire, oui, en ce moment, le Saint-Esprit me travaille sur ce sujet. Imaginons, je suis avare, le Seigneur me travaille sur mon problème d'avarice. C'est un problème que j'avais avant ma conversion, je ne l'ai pas réglé à la conversion. Est-ce que ça peut arriver ? Vous voyez, on pourrait multiplier les exemples. Mais une chose est sûre, j'ai pris l'avarice, comme j'aurais pu prendre la jalousie, j'en sais rien, ou un autre comportement qui a besoin d'être clarifié. Une chose est sûre, on doit savoir, on doit avoir une communion, on doit rechercher cette communion, si on ne l'a pas, qui va nous permettre de pouvoir dire, oui, le Saint-Esprit est en train de me dire ça. Parce que moi, des prédications, en veux-tu, en voilà, les pasteurs qui prêchent depuis longtemps savent très bien combien cela nous est facile aujourd'hui de prêcher d'une manière générale. Il n'y a rien de plus facile. Demander à un cuisinier qui fait des steaks frites depuis 30 ans s'il peut, dans une demi-heure, vous faire un steak frites. Un bon steak frites, bien sûr que oui. Un pasteur qui s'applique quand même à prêcher, au bout de 30 ans, 31, 32 bientôt, peut apporter une prédication. Mais ce n'est pas du tout ça que nous devons comprendre. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ? Où en es-tu ? Il est certain que la façon dont Dieu parle à Daniel ne peut que nous encourager. Oui ou non ? Je lisais hier ces textes, parce que je pense à ma prédication, bien sûr, ça vient en flot. La façon dont Dieu a pu parler aux hommes. Par exemple, avant de mourir, lorsque Jésus a parlé aux 11, après que Judas soit parti, vous savez pourquoi faire, Jésus a dit aux 11, mes petits-enfants. Vous voyez, déjà, on voit cette tendresse, malgré tout ce qu'ils vont faire et malgré tout ce qui ne va pas aller, Jésus leur dit, mes petits-enfants. Lorsqu'il s'adressera aux croyants d'une autre catégorie, je pensais, parce que je le lisais hier matin, quand il dit « Mais vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. » Et il ajoute, comment il les appelle ? Hypocrites. Je ne pense pas que Dieu traite des gens d'hypocrites, ou des races de vipères, ou de rebelles. Je ne pense pas qu'il le fasse pour nous faire du mal. Je pense vraiment que lorsque Dieu nous parle d'une manière sérieuse. Nous, on est maladroit. Une prédication, elle peut être inspirée à 10%, à 80%. Une prédication, c'est une grande bénédiction si toute la prédication est inspirée entièrement pour Dieu. L'homme peut être très maladroit. Mais dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit est juste. Et si Dieu, à un moment donné, veut m'interpeller avec le mot hypocrite ou le mot rebelle, je dois le considérer comme une faveur. Dieu est en train de me montrer mon hypocrisie. Il y a un décalage entre ce que je fais et ce que je dis, et ce que je vis. Donc on ne doit pas s'offusquer, par contre on doit apprécier. Peut-être que déjà Dieu vous a parlé de votre orgueil. Est-ce que ça peut arriver que Dieu nous parle de notre orgueil ? Ben oui, ben on ne doit pas, oui j'en ai marre, Dieu m'a parlé sévèrement, je ne comprends pas, ou alors c'est le pasteur qui n'entend rien. C'est possible. Mais c'est aussi possible que Dieu nous parle d'une façon très sévère, comme d'une façon affectueuse. Quand il leur dit plus tard, je ne vous appelle plus mes serviteurs. C'était des serviteurs. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'avais reçu de mon père. Il doit y avoir une progression. Et je ne sais pas, on a tous des hauts, on a tous des bas. Mais quand même, on devrait tous être capables de dire, avec du sérieux, en ce moment, Dieu traite cette affaire dans ma vie. Dieu est en train de me montrer, comme on l'a chanté, tiens, que je dois peut-être mourir à moi-même, vraiment, pour que la vie du Seigneur se manifeste. Mais là, ah, je vous assure, c'était un soir, je veux comprendre les 70 semaines de Daniel. Pour moi, c'est important, parce que peut-être que j'aurai à les partager avec vous. Mais je vous assure, je le sais, que trois fois dans l'Apocalypse de Daniel, parce que Daniel a été appelé l'Apocalypse dans l'Ancien Testament, tellement Dieu a pu se révéler à cet homme. Mais laissez-moi vous dire que si Dieu s'est vraiment révélé à Daniel, croyez-moi qu'il veut aussi se révéler dans nos vies. Lisez l'Épître aux Éphésiens et vous verrez que je ne peux pas me tromper. Mais là, quelle approbation de Dieu! Que Dieu envoie l'ange Gabriel lui-même en personne vers ce jeune homme et lui dise « Voilà comment Dieu t'appelle. À ses yeux, tu es un homme bien-aimé. » Moi, je vous promets, j'en ai pleuré. Pleuré, je ne sais pas de quoi, je suis de jalousie, je ne pense pas. J'étais touché. L'approbation divine sur un homme qui, je vous avoue, est en train de vivre des choses difficiles. Parce qu'aujourd'hui, on est, oui, mais si tu étais à ma place, si j'avais vécu à notre époque, si tu savais ce que je suis en train de galérer, etc. Écoutez-moi, Daniel était un jeune homme, c'était même pas à Jérusalem que ça s'est passé. C'est en déportation, à Babylone, un homme qui n'avait plus de possibilité de rentrer chez lui. Il a été exilé. Il a peut-être vu ses parents se faire égorger sous ses yeux. Ses frères, ses sœurs, s'il en avait. J'en sais rien. Et c'est sûr que quand on sait comment les Babyloniens traitaient leur ennemi, laissez-moi vous dire que cet homme a dû voir des choses terribles. Et quand vous lisez ce livre, bien sûr qu'il y a toutes les infos pour comprendre pourquoi il est devenu, aux yeux de Dieu, cet homme bien-aimé. C'est pas une fois. Dieu aurait pu permettre qu'une fois soit écrit dans ce livre, tu es un bien-aimé. Ça suffisait pour dire ce que je vais vous dire. Mais trois fois, l'ange Gabriel lui dit, tu es un bien-aimé. Et quand vous lisez d'autres versions, c'est encore plus fort. Plus fort souvent. L'expression que Dieu utilise pour montrer l'approbation qu'il y a sur la vie de ce garçon. Il y a des raisons. Vous savez, Dieu, homme bien-aimé, moi, il y a 30 ans de ça, je vous dis, tiens, le Seigneur est bon, le Seigneur est bienveillant, le Seigneur est plein d'affection. Mais croyez-moi, la façon dont Dieu parle à Daniel, ce n'est pas une question de sentimentalité ou d'émotion. C'est quelque chose de spirituel. Nous savons tous que Dieu est bienveillant. Vous le savez que Dieu est bon? L'amour de Dieu, l'amour rédempteur, je ne parle pas de l'amour comme on le conçoit. Il faudrait presque dire l'amour rédempteur, toujours pour comprendre que ce qui s'est passé au calvaire. L'amour rédempteur est pour tous les hommes, que son nom soit béni. Et Dieu nous aime comme personne ne peut le comprendre. Même si on doit chercher à comprendre l'amour de Dieu, comme Paul le dit aux Éphésiens, il faut connaître l'amour qu'on ne peut pas comprendre. Vous savez, c'est écrit. Mais mes frères et sœurs, il y a un amour rédempteur qui est d'une bienveillance infinie. C'est pour ça que tous les hommes seront inexcusables lorsqu'ils passeront devant Dieu. Tout genou fléchira. Tout genou, tous. Du bon ou du mauvais côté, mais tout genou fléchira. Et reconnaîtra la seigneurie de notre Sauveur Jésus. Mais là, il y a quelque chose de... Alors, je pèse mes mots. Il y a quelque chose de plus fort que l'amour rédempteur. Quelqu'un pourra dire, peut-être vite fait, mais c'est pas possible, monsieur Gault. Écoutez. Il peut y avoir une communion avec Dieu qui nous montrera ce que Dieu attend, ce que Dieu veut faire. Peut-être que plusieurs parmi nous, nous ne savons même pas que Dieu a des projets. Nous, on est là, accaparés par les temps difficiles. C'est des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Le diable va redoubler de colère. Il y aura la colère de Dieu. Alors, on peut être là dans le triste, pas possible, et tout en étant dans la réalité. Mais moi, je crois que Dieu règne au siècle des siècles sur tout, sauf sur le péché. Mais Dieu règne et Dieu veut gouverner là où il trouvera une église où les chrétiens chercheront à devenir des bien-aimés. Si Dieu veut me taxer d'hypocrite ou d'orgueilleux, eh bien c'est bien. Ça devrait me faire réagir. Alors Dieu peut utiliser quelqu'un. Est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un de la famille, quelqu'un du boulot, pour nous parler de notre hypocrisie, de notre orgueil, est-ce que ça, de notre rébellion? Ben oui. Alors ça, j'accepte ou j'accepte pas. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a des gens, ils ont envie de bâcler le problème. Mais moi, je crois que Dieu peut nous parler pour nous montrer exactement où nous en sommes. Mais une chose est certaine, si vous étudiez ce livre, si votre cœur aspire à entrer, non pas dans une connaissance générale des choses de Dieu, parce qu'il y a des gens, ils sont accaparés par certains sujets bibliques. Vous voyez, Israël, moi j'ai vu des chrétiens qui étaient accaparés par les prophéties sur Israël. Est-ce que c'est intéressant d'étudier les prophéties sur Israël? Mais ce n'est pas pour ça que même si je connaissais tout le plan de Dieu pour le peuple d'Israël, avec les prophéties bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est très intéressant. Ce n'est pas pour ça que je connais le plan de Dieu pour moi aujourd'hui. Et que Dieu nous accorde la grâce de grandir dans la connaissance, c'est évident. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce ne serait vraiment pas bien. Mais mes frères et sœurs, si Dieu nous accorde la grâce de découvrir certains sujets bibliques pour comprendre, etc., je pense que rien ne peut remplacer la possibilité que nous avons d'entrer vraiment dans les desseins de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a un dessein pour nous, pour son œuvre, pour que sa volonté soit faite, pour que son plan se concrétise, pour que son plan s'achève? C'est pas en restant les bras ballants, en disant « ben ouais, ben il arrivera ce qu'il arrivera, Inch'Allah ». On l'entend ça. Dans la bouche de chrétien, j'ai utilisé ce mot parce que je l'ai entendu de la part de chrétiens. Mais mes frères et sœurs, c'est pas du tout ça que Dieu nous demande, d'attendre passivement que le plan de Dieu s'accomplisse ou s'accomplisse pas. Après tout, il est tout puissant, c'est son affaire. Non! Daniel, lui, aurait pu trouver justement beaucoup de prétextes pour dire, écoute, moi, je n'y comprends plus rien. Maintenant, je suis à 1400 kilomètres de la maison. C'est lamentable, moi, mais ce que j'ai vu. Mais si c'est ça, Dieu, mes parents sont morts, je les ai vus mourir sous mes yeux. Voilà, on n'a pas jugé. Mais en même temps, je crois qu'il vient un moment dans l'histoire où on peut se décider. Et ce n'est pas en chantant, parce que hier je pensais à ce cantique que j'aime chanter en plus. J'aime le chanter parce qu'il est quand même fort, mais j'avoue que je l'ai chanté des années sans le vivre. Vous savez, je choisis d'être saint. Vous connaissez, il est beau ce cantique, hein? Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir d'être saint. Vous connaissez, il est magnifique, je n'ai qu'un désir. Mais le problème, c'est que le désir, ce n'est pas forcément synonyme de détermination. Moi, j'ai vu ma sœur, pendant des années, dire tous les soirs, elle était un petit peu boulotte, et tous les soirs, elle disait à table, demain, je fais le régime. Des années. Et un soir, elle a dit, demain, je fais le régime. Et elle a commencé. Bon, ça n'a mis que quelques années. Mais mes frères et sœurs, je pense qu'il faut faire la différence entre le désir et la détermination. Et on n'aura peut-être pas le temps de le voir, mais je peux vous dire que Daniel, dans son malheur, parce que vraiment le diable y a été fort, il a même fait en sorte qu'on change son nom, qu'on lui donne un nom païen pour essayer de détruire sa personnalité. Mais il n'a pas bronché, malgré le poste élevé qu'il a eu. Il a choisi la sainteté, croyez-moi. Lui, il pouvait le chanter avec cœur, sans être hypocrite, dire « Oui, je choisis d'être saint, je n'ai qu'un désir, celui de t'obéir. » C'est exactement un cantique que Daniel aurait pu composer, croyez-moi. Et lorsque Dieu, à trois reprises, du ciel, envoie un ange pour lui parler et pour lui révéler tout le plan de l'humanité en même temps, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est un truc de fou. Dieu va lui révéler toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas beaucoup de chapitres dans Daniel, mais c'est presque affolant. Et je comprends pourquoi Dieu a demandé à ce que Gabriel lui dise « Voilà qui tu es ». Quand Dieu te regarde, quand Dieu parle de toi, tu es un homme grandement aimé. Voilà ce qu'on dit de toi dans le ciel. Et moi, vous comprenez pourquoi j'en ai pleuré. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est écrit pour nous servir d'exemple. C'est pas écrit pour qu'on dise, oh, c'était génial. Non, c'est écrit pour que peut-être quelqu'un se ressaisisse. Et quand je méditais ces choses, c'était pour moi, bien sûr. Je me suis douté vite fait que c'est un texte que j'allais devoir développer avec l'Église. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte l'approbation de Dieu sur un homme? Est-ce que c'est ce que nous voulons dans l'Église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais moi aussi, surtout que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle n'est pas que bonne. La Bible dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et là, nous avons l'enseignement d'un homme qui a choisi vraiment, d'ailleurs, vous le savez, quand les satrapes, les sages étaient jaloux de ce que Daniel avait été élevé au troisième rang du royaume, lui, il s'en fichait complètement d'ailleurs. Mais les satrapes ont cherché à pondre une loi pour qu'ils se fassent piéger. Et ils se sont présentés devant le roi. Et ils étaient vicieux, les sages. Les sages, oui. Et ils ont dit, voilà, ô roi, avec l'expérience que tu viens de faire, on a pensé quelque chose. C'est que quiconque, pendant un espace de 30 jours, prierait un autre Dieu que toi, soit exterminé, lui et sa famille. Et le roi, il a signé. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il fallait que personne d'autre prie le roi. Et Daniel, lui, comme à sa coutume, matin, midi et soir, il ouvrait la fenêtre et il priait. C'est pour vous dire combien, lui, il pouvait chanter le cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Pour toi, mourir ou vivre, c'est mon seul bien. Il avait décidé, c'était pas des blagues, quand il chantait « Je choisis d'être saint ». Il savait très bien, il devait même avoir participé avec le colloque quand le décret a été signé, puisque c'était la troisième personne du royaume. Il n'a rien dit. Et bien sûr, vous savez ce que ça lui a valu? Un séjour dans la fosse au lion. Et si nous voyons dans la Bible des serviteurs qui ont été mangés par les lions, nous en voyons aussi d'autres qui ont été épargnés. Après, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais je crois qu'il y a un enseignement derrière, à savoir que quand on résiste au diable, vraiment, Dieu peut permettre qu'il fuit loin de nous. Alors c'est une affaire sérieuse. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un, car si Dieu parle, moi je crois que Dieu veut parler. Moi je vous avoue, il m'a parlé pendant ses congés, sur plein de trucs. J'avais certainement besoin d'un peu de recul pour que moi aussi Dieu puisse me parler, parce que bon, vous savez, les pasteurs, on se tient devant Dieu pour que Dieu nous parle, mais on se tient devant Dieu pour que Dieu vous parle. Il y a deux, c'est comme un cuisinier, il prépare à manger pour lui et il prépare à manger pour les autres. Et moi, des fois, je mélange tout ça, je vous l'avoue. Mais mes frères et sœurs, je sais que Dieu cherche des Daniel, des hommes, des femmes qui sont capables de dire, mais moi, je veux savoir ce que Dieu veut que je fasse. Ça fait 5 ans que je suis dans l'église, ça fait 10 ans que je suis dans l'église, je ne sais pas quoi faire. Bon, il y a du monde qui bosse, il y a des animateurs. Il y a des meneurs de chant, il y a des musiciens, je ne sais pas. Peut-être que vous en êtes là et vous vous en fichez pas mal de ce que, à moins que vous ayez, et ce n'est pas du mépris. Mais mes frères et sœurs, on va passer devant Dieu. Vous avez un pasteur, Dieu a voulu des pasteurs dans les églises pour que nous soyons enseignés, comme disait un frère, enseignables. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce que tu as à me dire? Peut-être c'est par rapport à un voisin qui va mourir dans 15 jours. Est-ce que vous croyez que Dieu, dans un moment de prière, peut vous montrer que vous pouvez aller voir le voisin? Vous savez, quand je préparais cette prédication, je pensais à une situation que j'ai vécue il y a 23, 24 ans. J'étais jeune pasteur. Et il y avait, écoutez, je vous le dis parce pour vous expliquer qu'il faut du temps. Et c'est ce que Jésus dit à l'Odyssée quand il dit « Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche ». C'est-à-dire, de l'or, c'est bien sûr c'est gratuit, mais c'est un temps de qualité devant Dieu. Un long temps pour que vraiment l'or puisse fondre, il faut du temps. Ça veut dire prendre du temps devant ma face, du temps de qualité. Et je me rappelle un matin, Il y avait un frère qui était arrivé. On était tous les deux albi, on était frères, tous les deux. Et il y avait eu une difficulté assez sévère. Bon, on s'était réconcilié, on s'était demandé pardon. Moi, après, je suis rentré. J'étais dans le ministère à cette époque, oui. Et puis, je suis parti à Groyer. Je suis parti à Groyer, et au bout de 2 ans, qui je te vois arriver, un jour dans l'église, ce frère. Ce frère, et j'ai dit bonjour. Alors bon, c'était réglé, pour moi c'était réglé. Mais en fait, je ne tenais pas particulièrement à ce qu'il vienne dans l'église. Et il me dit, je lui dis, tu habites où? Il me dit, mais j'habite là-bas. Ah, mais je dis, mais tu sais, tu as une église beaucoup plus proche. Tu as l'église à 4, tu es à côté de l'église à 4. Non, non, non. Le Seigneur m'a montré que je devais venir ici, à Groyer. Bon. Il est venu avec sa femme, ils avaient 4 gosses. Il venait à toutes les réunions. Et un jour, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est sérieux. Vous comprenez bien que ce n'est pas le fait de raconter un témoignage, je n'ai pas envie de raconter un témoignage. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui ne se passent que dans la communion avec Dieu. Ce qui s'est passé avec Daniel. Et un dimanche matin, je m'étais levé, je ne sais pas, c'était 4h30, 5h, donc j'étais en prière depuis 2h, 3h. J'étais à genoux dans ma petite église là-bas à Groyer. Et tout d'un coup, le Seigneur me montre quelque chose. Et il me dit, tu vas prier pour Frédéric et pour sa femme. Et moi, j'ai dit non. Oui. Et bien, puisque tu dis non, tu seras obligé de prier pour eux. Bon, moi, je continue, je passe à un autre sujet, mais ça vient de toi, c'est ridicule. Bon. Le culte commence, et en plein culte, la porte s'ouvre, et sa femme, avec son petit de 2 ans, inanimé, il s'était assommé en faisant pipi dans les WC. Il avait basculé, paf, il était tombé la tête la première par terre, mais il était inanimé. Elle a cru qu'il était mort. Et elle l'amène, comme ça, c'est en plein culte, une maman. Alors j'ai dit, écoutez, vu la situation, on va prier pour ce bébé. Et j'ai dit, Frédéric, viens avec moi, on va prier ensemble. On va prier pour vous. Et là, quand j'étais en train de prier, il m'a dit, tu vois, tu n'as pas voulu prier, tu es obligé. Et ce garçon, parce que Dieu m'avait montré qu'il allait rentrer à le ministère. Mais moi, je n'y tenais pas particulièrement. Je n'avais pas envie de commencer à former ce gars. Vous savez, on a des progrès à faire. Hein. Et ce garçon est rentré à le ministère. On a vécu des choses merveilleuses ensemble. Il est pasteur aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que quand Dieu veut quelque chose, il le fait avec des hommes qui ne prennent pas à la légère l'expression homme bien-aimé ou femme bien-aimée. Car dans le Nouveau Testament, il n'y a ni homme ni femme, vous le savez. Mais ce matin, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire « Oui Seigneur, je dois changer. Je dois changer. J'ai encore des choses mondaines. On a entendu plusieurs fois, d'une manière ou d'une autre, par prophétie ou par des prières, l'importance d'être résolu. Tout à l'heure, Jonathan nous rappelait que Abraham n'a même pas voulu un fil. Et regardez le comportement de Daniel. Regardez avec moi quand même. N'oubliez pas le contexte dans lequel il a vécu. Laissez-moi vous dire que beaucoup en auraient profité pour dire, eh bien, puisque c'est ça, Dieu nous a abandonnés, eh bien, je fais ce que je veux. Voyez quand il est dit, Daniel 1, verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar. Vous savez, ça veut dire prince de Bel. C'était le nom d'un dieu païen. Vous avez vu combien le diable, il essaie de nous détruire jusque dans notre identité. Ça n'a pas influencé beaucoup Daniel. Daniel, verset 8. Résolu, ce n'est pas un désir, tiens, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir d'être meilleur. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Le verset 9, ce n'est pas étonnant. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Alléluia. Il y a une résolution. Ce n'est pas une question de dire, ah, on a besoin d'une bonne prédication qui me redonne du courage pour aller à dimanche prochain. Parce que pour la majorité des chrétiens, c'est un petit peu ça ce qui se passe. On a besoin d'une prédication qui, je l'espère, va nous nourrir. C'est comme, vous savez, si on donne à manger pour quelqu'un qui part une semaine, voilà, prends ça, prends ta glacière, j'espère que tu en auras assez pour la semaine, voilà, mais qu'il faut tout manger le dimanche. Mes frères et sœurs, la vie avec Dieu, ce n'est pas ça. Et je vous exhorte, mais vraiment je vous exhorte, ceux qui ont soif de Dieu, à dire, mais Seigneur, tu vas m'aider. Moi, je ne peux pas, mais tu vas m'aider. quel que soit le contexte, parce que voilà, peut-être votre mari est inconverti, peut-être que vos enfants sont inconvertis, peut-être que ça va mal. Noé avait choisi de marcher avec Dieu dans son temps. Et laissez-moi vous dire que Noé, il n'était pas à la fête, croyez-moi, dans le contexte de l'époque, quand on voit ce que Dieu a dû faire. La méchanceté des hommes était répandue sur toute la terre et les pensées du cœur des hommes se portaient uniquement vers le mal. Quand vous voyez le contexte, eh bien Noé a choisi de marcher avec Dieu dans le temps où il était. Et dans le temps où nous sommes, laissez-moi vous dire qu'on peut marcher avec le Seigneur. Ne dites pas, si j'avais vécu du temps de Jésus, oh si j'avais vécu du temps de Jésus, je suis sûr que j'aurais été un bon chrétien. Si vous aviez été du temps de Jésus, vous auriez été comme aujourd'hui. Pareil. Les choix que vous avez faits il y a 2000 ans, aujourd'hui, vous les auriez faits il y a 2000 ans. Si vous avez vécu dans un siècle où il y a la peste, vous auriez fait les mêmes choix qu'aujourd'hui, ou vice-versa, dans un siècle d'abondance. Vous seriez comme vous êtes aujourd'hui. Mais mes frères et sœurs, est-ce que cette expression que Dieu veut que l'on sache comment parler de Daniel dans le ciel, et vous voyez combien le ciel gouverne, puisqu'il va vers Daniel, et il lui explique ce qui va se passer. Est-ce que vous voulez savoir comment l'œuvre de Dieu va avancer? Vous n'avez pas envie de voir l'œuvre de Dieu avancer? Ou vous voulez juste savoir, comme je le disais tout à l'heure, des prophéties sur tel sujet? Monsieur Go, enseignez-nous sur l'Apocalypse. On veut savoir si l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, après la grande tribulation, ou au milieu de la grande tribulation. Ça nous intéresse. Bon, c'est bien. Mais ça, c'est une chose. Mais faire la volonté de Dieu aujourd'hui, prendre des résolutions, quand vous regardez les textes dans la Bible, par rapport aux résolutions, à tes résolutions, répondra le succès. Il y a une communion avec Dieu. Il y a une communion avec Dieu. Vous croyez à la communion du Saint-Esprit? Il y a une véritable communion avec Dieu pour les bien-aimés. C'est indéniable. Alors vous comprenez bien que vous comprenez pourquoi j'ai pris le verset 2 du psaume 127, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je trouve que c'est un peu léger d'utiliser ce verset pour dire que nous sommes tous des bien-aimés et que Dieu nous bénit, même si on ne prie pas après tout, parce qu'après tout, ça ouvre la porte à n'importe quoi. Je ne pense pas que c'est ce que le psalmiste a voulu dire. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je crois que Dieu peut nous étonner et que celui qui est vraiment en communion avec Dieu, Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Je le crois vraiment. Le contexte d'ailleurs de ce verset, il est là. Mais mes frères et sœurs, vous avez vu le peu qu'on a lu? Comment Dieu a voulu ouvrir l'intelligence à Daniel? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, mais ouvre-moi l'intelligence? Mais pas pour être plus intelligent que les autres. Je veux être intelligent, Seigneur. Je veux... Tu vois, Seigneur, je veux montrer que je suis plus intelligent que les gens. Vous croyez que ça va marcher comme prière? C'est pas de l'intelligence pour en mettre plein la vie aux gens. C'est pas de la sagesse pour montrer qu'on est meilleur que les autres. C'est pas du pouvoir pour dominer les gens. Si le Seigneur nous donne quelque chose, premièrement, c'est pour partager, c'est pas pour dominer. Mais mes frères et sœurs, quand vous lisez le peu, si vous relisez chez vous, d'une manière consciencieuse, spirituelle, comment cet homme a eu à cœur de comprendre, vous l'avez lu avec moi, parce que tu as eu à cœur de comprendre, il n'était pas là, avachi sur ce qu'il venait de vivre. Vous savez, la parole de Dieu est très succincte par rapport à la souffrance, très succincte. Mais laissez-moi vous dire qu'il revenait de loin ce jeune homme. Et je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous dites, oui, mais moi, dans mon enfance, j'ai vécu ceci. Moi, dans mon enfance, j'ai vécu cela. On s'est moqué de moi au boulot. On me persécute parce que je suis chrétien. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Je crois qu'il y a un moment donné dans la vie où il faut choisir le genre de chrétien qu'on veut être. Est-ce qu'on veut être un hypocrite? Je vis quelque chose à l'église, mais à la maison ou au travail, je suis comme les autres. Est-ce que je vais être un rebelle tout le temps en train? Oui, mais Dieu, pourquoi si et pourquoi ça? Malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Écoutez, moi, je ne comprends pas tout, mais je crois que Dieu sait tout. Alors, c'est sûr que Dieu peut nous appeler rebelles, et s'il devait demain matin me dire, voilà, Gérard, tu es un rebelle, eh bien, je dirais, merci de me le montrer. Je crois qu'il faut partir de l'intelligence de Dieu. Dieu sait ce qu'il a à nous dire. Mais comprenons que si vous regardez le comportement de Daniel, vous comprendrez pourquoi il est devenu un bien-aimé. parce qu'il a choisi de ne pas se souiller. Il a commencé en disant, voilà, moi je ne vais pas me souiller. Cette nourriture, elle est offerte à des idoles. Je ne vais pas résumer ce qui était le contexte. Cette nourriture-là que je dois manger, le vin que l'on me demande de boire, ça a été sacrifié à des idoles. Moi, il est hors de question que je souille mon âme avec ces choses, parce que le contexte de l'Ancien Testament l'explique. Aujourd'hui, ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Vous le savez. Il a décidé. Il était déterminé, il était résolu. Vous pouvez utiliser les qualificatifs que vous voudrez. Il avait décidé de ne pas se souiller. Mais, mes frères et sœurs, il ne faut pas oublier que tout ce qui entre par nos oreilles et tout ce qui entre par nos yeux, que vous le vouliez ou non, c'est de la nourriture. Oui ou non ? C'est la nourriture. Vous n'êtes pas d'accord ? Laissez-moi vous dire que tout ce qui rentre par les oreilles et par la vue, spirituellement, c'est de la nourriture, de la bonne ou de la très mauvaise. Et qu'un chrétien qui veut devenir une chrétienne à qui Dieu voudrait dire « Tu es ma fille bien-aimée », est-ce qu'il y a des sœurs parmi nous qui sont enthousiasmées à ce qu'un jour, lorsque vous vous présenterez devant Dieu, vous entendiez « Ma fille, tu étais une fille bien-aimée ». Est-ce qu'il y a une sœur à qui ça intéresse ? Est-ce qu'il y a une sœur qui dit cet après-midi, ce matin ? Oui, je le veux. Parce que Dieu le veut. Vous comprenez bien que la volonté de Dieu, c'est d'améliorer notre communion avec lui. Parce que Dieu a envie d'être communion avec nous, parce que c'est sa volonté. Ce n'est pas un désir, tiens, moi ça m'intéresserait pour... Non, c'est la volonté de Dieu que nous soyons en communion avec Dieu. Et le mardi, j'ai entrepris un thème, vous savez, parce que là aussi, Dieu m'a interpellé sur un sujet, je ne savais même pas s'il est d'église, et si moi-même, le premier, j'étais prêt à le présenter. Ce texte, vous savez, quand il est dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte du fruit. C'est ce qu'on est en train de partager le mardi. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je peux vous dire que Dieu m'a interpellé là-dessus pour que je comprenne certaines choses par rapport à ma vie. C'est quelque chose dont Dieu m'a vraiment arrêté, interpellé. Et je crois que vous et moi, nous pouvons être à même de dire ce matin, si à moins que nous soyons des religieux, des chrétiens du dimanche, c'est une expression qu'on comprend très bien, mais je vous promets, mes frères et sœurs, devant Dieu, Dieu cherche un homme, une femme, une église où il pourra manifester ses desseins, où nous pourrons comprendre ce qu'est vraiment une véritable communion, où sa parole va nous interpeller, où va nous dire « oui, c'est ça que j'avais besoin, c'est ça que je devais entendre ». Et je disais mardi, par rapport à ce sujet qui est terrible en même temps, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, quand on regarde ce que Dieu veut faire. Et pourtant, je le disais mardi, quand je me suis préparé, je disais, vous voyez, parce que bon, il y a l'humain qui se mélange avec le spirituel, je ne suis pas à un niveau tel qu'il n'y aura que du spirituel, vous le comprenez. Et quand je préparais ma prédication, je pensais à ce texte, je pensais à une parole, je dis, mais ce sujet, il ne va pas les faire sauter de joie. Et le Saint-Esprit m'a repris, parce que c'est exactement l'inverse. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit complète. Et lorsqu'on obéit à Dieu, notre joie, elle est complète. Et je suis sûr que Daniel avait une grande joie. Non pas parce que Dieu a dépêché l'ange Gabriel pour lui parler, mais cet homme, il avait à cœur de comprendre. Relisez-le avec moi, s'il vous plaît. Cette parole, il y a quelque chose. Il est attentif, il est soucieux, il veut savoir, il cherche Dieu. Et pourtant, je vous assure, il avait du boulot. Croyez-moi qu'il avait du boulot. Verset 12 du chapitre 10, il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. » Pourtant, laissez-moi vous dire que vu le gabarit spirituel, je pense qu'il aurait pu s'autoriser, comme Néhémie ou Esdras, ils auraient pu s'autoriser, entre guillemets, à ne pas s'humilier. Mais il souffre, pourquoi ? Il souffre pour le peuple, il s'identifie au peuple. Quand vous dites « Seigneur, pardon pour le péché de notre nation », je veux dire, on n'est pas impliqué puisqu'on est dans l'Église. Est-ce qu'un chrétien peut dire « pardon pour le péché de l'Église, pardon pour le péché de la nation » Est-ce qu'on peut dire pardon pour le péché de notre nation? Bien sûr que oui, on s'identifie. Daniel s'est humilié, il avait à cœur de comprendre. Il ne lisait pas la Bible, bon, il me faut lire, le pasteur m'a dit que ça serait bien que je lise 3 chapitres par jour. Alors je lis, bien en ce moment, je suis dans l'Épître aux Hébreux. Voilà, je lis, je suis chapitre 4, 5, 6, je crois, ouais, c'est bien. Mais c'est ça, il y a des gens qui lisent, mais il y a un dessein, il y a un plan, il y a un projet de Dieu. Pour notre génération, vous croyez que Dieu, il est en train de s'agiter sur son trône, mais comment je vais faire? Comment il va faire? Il veut trouver des gens déterminés, résolus, qui veulent savoir. Et vous avez vu, je n'ai pas fini la phrase. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais c'est pas du blabla. Dieu envoie, c'est Dieu lui-même qui délègue un de ses plus grands anges dans le ciel, bon qu'importe, mais c'est Dieu en tous les cas qui lui fait connaître son plan. Le livre de Daniel, c'est un livre extraordinaire, quand on voit vraiment l'enseignement de Dieu. Mais ne parlons pas de l'enseignement, nous on n'a pas besoin de trop de l'enseignement de Daniel, on a besoin de quelque chose qui corresponde à un dessein de Dieu. Mes frères, jeunes ou vieux, Dieu a un plan. Pendant ces vacances, j'ai beaucoup été travailler aussi. Parce qu'il y a des histoires, j'ai l'impression que je les connais par cœur. Vous savez, je les ai tellement lues. C'est le piège des pasteurs, ça. On a lu une histoire 1000 fois, on croit qu'on la connaît par cœur. Et moi, il y a des histoires, je pense que je les connais par cœur. Mais c'est une nannerie pas possible. Et j'étais poussé à voir comment Dieu n'a pas voulu d'un prince de 40 ans, puissant, en parole et en œuvre, prêt à gouverner l'Égypte. Comment Dieu l'a formé pendant que 40 ans dans le désert, pour qu'il ne soit même plus capable de s'exprimer correctement, puisqu'il était embarrassé lorsqu'il parlait. Parce qu'en 40 ans, il s'en passe des choses. Et Dieu a attendu que ce prince puissant devienne un berger tout faible, pour sortir une nation entière d'un pays. Il n'avait rien, 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 un bâton. Il n'avait rien, pas un ami, pas un rond, rien. Et nous devons accepter le fait que quel que soit le temps que Dieu va prendre, je pense même des années. Est-ce que vous êtes prêts à accepter le fait que Dieu nous forme pendant des années pour que nous devenions l'homme, la femme que Dieu veut que nous devenions? Mais je pense que même si Moïse était arrivé peut-être à un stade compliqué, il y a un temps marqué. Il y a un temps marqué. Cette semaine, j'étais arrêté par un verset quand il est dit que l'enfant ne diffère en rien d'un esclave tant que c'est un enfant. Parce qu'il est sous des tuteurs, bon, il ne grandit pas. Un chrétien qui ne grandit pas, il reste un enfant. Même s'il est le maître de tout, en vérité, il ne peut pas obtenir l'héritage parce qu'il reste un enfant. Et voilà ce que le diable veut. Le diable, lui, il doit se marrer. Et je pèse mes mots. Quand on chante « Je choisis d'être saint » avec presque les larmes qui nous coulent aux yeux et que le soir on regarde des cochonneries à la télé, mais le diable, il doit rire. Il doit vraiment rire. Et le salut des âmes, ce n'est pas un sujet que j'utiliserai pour plaisanter. Mais je le pense que le diable, il doit rire quand il voit certaines choses dans nos églises. Et là, nous avons, à l'évidence, l'enseignement qui nous permet de comprendre. Cet homme, il voulait savoir. Il n'a pas dit, bon, c'est comme ça, c'est la folie. Franchement, Babylone, regardez, étudiez, achetez des bouquins sur Babylone, vous allez voir ce qu'il vivait. C'était d'une perversité et d'une cruauté pas possible. Et lui, il a dit, je vais prendre une résolution. Je vais obéir à Dieu. Et rien de souillé, pas un fil, n'entrera dans ma vie. Il ne faut pas s'étonner qu'il soit devenu cet homme. Parce que je crois vraiment que s'il y a bien une chose que Dieu veut faire aujourd'hui dans les églises, c'est trouver des bien-aimés. Y a-t-il ce matin quelqu'un, non pas qui va répondre ou se lever ou lever la main, je ne veux pas faire d'appel parce que ça me brise le cœur d'avoir vu tant d'hommes, tant de femmes se lever à des appels pour rien. Au contraire, ça a dû les culpabiliser parce qu'ils ont pris une décision. Parce que c'est sûr que répondre à un appel, c'est comme une porte à franchir. Vous en avez pour une seconde, une demi-seconde. Mais répondre à un appel, ce n'est pas franchir une porte, que ça ne prend une demi-seconde. C'est un chemin de consécration. C'est un chemin. Voilà l'image. Se lever à un appel, c'est comme franchir une porte. Est-ce que c'est difficile de franchir une porte? Non. Mais marcher sur un chemin de sainteté et de consécration, laissez-moi vous dire, c'est une autre paire de manches. Alors bien sûr que je n'ai pas terminé ma prédication, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut non pas apprendre, être enseigné? La doctrine, tout ça, on a été sérieux, et je l'ai fait, monsieur Olé l'a fait, les sagères qui ont été avant moi l'ont fait, et on le fera. On va s'appliquer à apporter la saine doctrine et à garder la parole, parce que celui qui garde la parole, Dieu le gardera. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons ça, et en plus, nous voulons connaître le dessein de Dieu pour nous. Quand je vois, je dis ça, peut-être je ne devrais pas le dire, mais ça aide à comprendre. Quand je vois les propos qui ont été tenus par rapport au changement de local. Écoutez le local, si Dieu veut qu'on l'ait, c'est bien. Si Dieu veut qu'on l'ait pas, c'est bien. Le problème de Dieu, je ne crois pas que c'est le local. Le problème de Dieu, c'est les hommes. Le problème de Dieu, ce n'est pas les pécheurs pervers, corrompus, qui sont dans la fange. Le problème de Dieu, ce n'est pas les pécheurs. Le problème de Dieu, c'est le chrétien. Et si ce soir-là, j'ai pleuré, de joie, je ne sais plus de quoi, mais ça m'est égal. Je pleure au collège, je ris, ça m'est égal. Mais mes frères et sœurs, j'ai compris ce soir-là. J'aurais pu aller regarder la télé, aller regarder un film, je ne veux pas juger, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'avais besoin de me retrouver devant mon Seigneur. Je ne suis pas que le pasteur de l'Église. Je suis un chrétien qui a aussi besoin de ma communion vraiment avec le Seigneur pour moi. Et je sais vraiment que le Seigneur veut nous amener dans un projet, le sien. Vous pouvez dire Alléluia si vous voulez. Parce que Dieu a un projet. Et il attend que nous expérimentions, non pas que nous soyons d'accord théologiquement, doctrinalement, etc., etc., tout ça. C'est bien. Mais le grain de blé qui tombe en terre, ça ne doit pas être doctrinal, ça ne doit pas être théologique, ça ne doit pas être, comment vous dire, vachement bien plié et enseigné. Ça doit être vécu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Lisez le livre de Daniel, méditez-le et vous comprendrez. Pourquoi Dieu a dit à cet homme, écoute, c'est à cause de tes paroles que je viens. Comme si Dieu lui disait, écoute, je ne peux pas faire autrement. Je suis comme obligé de venir te montrer tout ce que je vais faire. Et il est dit, dans Amos, qu'il a plu à Dieu de révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, bien sûr que je pourrais parler maintenant du comportement de Daniel. Je pense que vous pouvez le faire, vous-même. C'est quelque chose que vous pouvez faire, tout seul. Dire Seigneur, ce qu'il a fait, je vais te demander de l'aide. Est-ce que c'est écrit d'imiter ceux qui ont été des exemples? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Imiter les exemples, où c'est écrit ça? Les stagiaires, Hébreux, c'est bien, chapitre 6. C'est demander. Vous pouvez, croyez pas, c'est pas du mimétisme. C'est véritablement une bénédiction que de dire, mais moi aussi, ce que tu as pour moi, ne dites pas au Seigneur, donne-moi la même vision que Daniel a eue. Non, il y a un plan précis pour chacun, une volonté de Dieu parfaite pour chacun. Dieu sait où vous en êtes. Je vous parlais tout à l'heure d'avarice ou de jalousie. Peut-être que Dieu va vous montrer ça, peut-être à moi il va me montrer autre chose. Dieu agit comme il veut, l'Esprit de Dieu agit comme il veut, mais il doit agir. Bien sûr, vous connaissez ce verset, l'Esprit de vérité que le monde, vous connaissez la suite, ne peut pas recevoir. Et si le monde m'envahit, laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit ne me parlera pas. Alors je voudrais compris qu'on termine ce culte en priant. En lui disant, mais Seigneur, c'est archi grave. Ça fait 5 ans que je suis là. Je ne sais même pas ce que je dois faire dans l'Église. Même pas. Il y a des besoins. Et déjà, ça doit commencer par des besoins. Il y a Il y a des enfants, il y a des ados, il y a des jeunes, des personnes à visiter. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit mardi, Dieu savait que vous viendriez ce matin. Vous êtes peut-être de passage, vous avez dit on va aller à Sainte-Agne ce matin, mais Dieu voulait que vous soyez là, comme ce jeune qui est devenu pasteur et qui est président aujourd'hui d'une région. Mes frères, ce que nous avons vu ce matin, ce n'est pas pour que nous jalousions Daniel, certainement pas. Vous avez compris. Ceux qui ont le cœur ouvert, ceux qui sont capables ce matin de dire « Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. » Y a-t-il quelqu'un ce matin? Un jeune? Un vieux? Et je pèse mes mots, c'est quelqu'un m'a dit « Monsieur Gros, vous utilisez le mot vieux ?» Ben oui, c'est biblique. Y a-t-il un jeune, un vieux, un ado, un couple qui va prendre la décision, non pas de désirer, mais de demander de l'aide? Ça va commencer. Ça va commencer par ça. Seigneur, par mes propres forces, j'y arrive pas. Je pense que ça commence par ce texte de Paul aux Romains, « Regardez-vous comme mort au péché. » Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut tout simplement demander de l'aide à Dieu? Vraiment. De l'aide. Il n'y a que lui qui peut le faire. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par l'argent. On pourrait tous être millionnaires. Ce n'est pas ça qui fera qu'on gagnera une âme de plus. Mes frères et sœurs, par le Saint-Esprit. Nous, on va le faire. On va le vouloir. On va devenir ces vases vides. Et Dieu va pouvoir les remplir. On va prier, on reste assis, c'est pas la peine de faire un appel. Mais je peux faire un appel de la façon la plus profonde qui soit, savoir, là, à ma place. Je reste assis, oui, mais je réponds. Pourquoi Daniel a décidé? Pourquoi Daniel n'a pas cédé au péché, à la nourriture que les rois du monde lui proposait? Parce qu'il aimait Dieu. Il voulait connaître. Plus loin, il est dit, je compris par les livres. Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais rien. Mais en tous les cas, il s'est arrangé pour prendre certains livres qui étaient à son époque, à sa disposition. Il avait en tous les cas le livre de Jérémie. Il avait compris par les livres qu'il devait s'écouler tant de temps, etc. Nous avons déjà compris certaines choses. Qui a compris certains trucs sur la sanctification, sur la consécration? Qui a déjà compris certains éléments? Alors je vais prier, mais je ne veux pas prier pour terminer le culte, il faut terminer. Les prières de Daniel ont été entendues. Elles ont été entendues. Est-ce que nous voulons que nos prières soient entendues? Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez que Dieu entende vos prières? Est-ce que vous voulez que Dieu envoie le Saint-Esprit pour vous baptiser de la présence du Seigneur Jésus? Alors prions, prions de tout notre cœur. On chantera après ce cantique « Ton nom ». Ah oui, le nom du Seigneur. Vous aimez le nom du Seigneur? Prions, mes frères et sœurs. Notre Père, notre Dieu, tu l'as dit dans ta parole que depuis que tu es remonté au ciel, tu as reçu pouvoir sur tout, sur les dominations, sur les principautés, sur les démons. Ton autorité est totale, Seigneur Jésus. Et tu as dit que tu habitais dans l'esprit de tes enfants. Combien, Seigneur, par souci de faire ta volonté, nous voudrions devenir des bien-aimés. Vraiment des bien-aimés. Oui, les temps sont difficiles, Seigneur, tu le sais. Tu les programmes toi-même. Mais nous croyons que dans ces temps, tu peux également baptiser du Saint-Esprit le jeune, la jeune fille, la femme, l'homme, le vieillard. Et quel que soit tout ce que tu auras permis dans notre vie, que cela contribue à ce que nous devenions des bien-aimés. Seigneur Jésus, nous te confions la rentrée, l'avenir, ce soir, demain, les jours à venir. Parce que Seigneur, nous voulons que tu te révèles vraiment. On ne peut pas le chanter comme ça le dimanche, mais je le crois et nous le croyons, Seigneur, que tu es un Dieu qui te révèle. Tu es un Dieu qui parle, tu l'as dit, mes brebis, elles connaissent ma voix. Alors que ta volonté soit faite. Tu vois les prochaines réunions, l'évangélisation cet après-midi. Mon Dieu, tu vois dans cette ville de Toulouse les gens qui vont mourir. Permets que plusieurs viennent pour faire la paix avec toi. Oui, bénis la réunion d'évangélisation, Seigneur. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Amen.